Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast consacré au philosophe français Alain, pseudonyme d'Émile Chartier pour l'état civil, né en Normandie dans le Perche en 1868 et mort au Vésinet en 1951. Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast dédié au philosophe français Alain, Émile Chartier pour l'état civil, né en Normandie dans le Perche en 1868 et mort au Vésinet en 1951. Émile Chartier s'est choisi le pseudonyme Alain au début du XXe siècle, et c'est sous ce nom qu'il a publié l'essentiel de sa philosophie et qu'il est passé à la postérité. C'est pourquoi aussi, c'est ce nom que nous retenons pour ce podcast. Pour ce premier épisode, je vous propose un tour d'horizon de la vie d'Alain, où nous aborderons quelques thèmes de son œuvre et les grands moments de son existence, mais aussi de sa vie et de l'influence du philosophe qui eut pour élève des écrivains comme André Mauroy, des poètes comme Roger Judrin, des philosophes comme Simone Weil ou Georges Canguilhem. Son influence déborde de loin le cercle de ses élèves, qu'on le cite comme Sartre ou qu'on l'admire avant de le rejeter comme Aron, et dans l'entre-deux-guerres, Alain a été en contact avec le tout Paris intellectuel, avec Valéry par exemple, dont il admire la poésie, avec Jean Giono, dont il partage une part des combats pacifistes. D'Alain, Gaston Gallimard, le grand éditeur, écrivait qu'il était un grand païen, cynique, ascète et gourmand. Et Jean Jaurès, le grand politicien socialiste, s'exclamait « Quel penseur que ce sauvage !» Tous deux, à leur façon, notent ce qu'il y a d'unique chez Alain, une pensée libre, hors cadre et provocatrice. Puisque je viens de mentionner le texte de Gallimard, signalons que la maison d'édition qu'il a fondée il y a plus de 100 ans continue à publier les œuvres d'Alain. C'est chez Gallimard, dans la prestigieuse collection de la Pléiade, que nous trouvons l'édition classique, quoique partielle, des œuvres d'Alain en 4 volumes. C'est aussi chez Gallimard, dans la collection Folio Essai, qu'est paru il y a quelques mois un très grand texte de Francis Kaplan. Je n'hésite pas à recommander ce livre comme une des meilleures introductions à Alain, avec son style clair et incisif, reflet de la clarté et du caractère incisif de la pensée de Francis Kaplan. Alain a donc eu une large réception. Pourtant, en dépit de sa vaste œuvre et de son influence réelle, Alain demeure parfois un grand inconnu. C'est pourquoi ce podcast se donne pour but de se faire une idée de la pensée riche, complexe, en dépit de l'apparence de simplicité de nombreux textes, notamment ce qu'il a appelé ses propos et qui étaient initialement des chroniques journalistiques. Nous essaierons de comprendre ou du moins de suivre cette pensée profondément laïque, qui a pourtant laissé des textes remarquables sur la religion, cette pensée politiquement réaliste, mais militante des droits du peuple et de la démocratie, ce libéralisme profondément soucieux de justice sociale, cette philosophie qui se passionne pour la littérature et la poésie. Et nous essaierons de rendre l'œuvre à sa diversité, des premiers articles universitaires d'Alain jusqu'à son journal personnel écrit pendant la vieillesse. Mais tout d'abord, parlons un peu de l'homme. Alain est né dans une petite ville du Perche en Normandie, à Mortagne, qui est aujourd'hui appelée Mortagne-au-Perche et qui à l'époque de la naissance d'Alain était Mortagne-sur-Huisne. Nous sommes en 1868. Alain s'appelle alors Émile Chartier. Alain, c'est le nom de plume, le pseudonyme qu'il se donne lorsqu'il commence à écrire dans différents journaux alentour l'année 1900. La ville du Perche où Alain voit le jour demeure aujourd'hui encore une des très belles villes du Perche. N'hésitez pas à vous y rendre, vous serez enchanté de l'atmosphère des vieilles rues du Moyen-Âge au centre. La maison natale d'Alain existe toujours, elle héberge désormais l'ensemble scolaire privé Bignan. Alain est le second enfant d'un couple qui compte déjà une fille, Louise, de 6 ans son aînée. Alain décrit plus tard les rapports de ses parents comme désunis. Il dit son père, un vétérinaire, porté sur la boisson, et le dépeint comme une sorte de Diogène. Il parle d'une mère peu soucieuse de son foyer et qui aime la danse. Alain souffre visiblement de la désunion du couple. Il souffre aussi de la relative pauvreté de la maisonnée quand il doit aller faire les courses à crédit chez l'épicier. De ses souvenirs, Alain garde une grande humiliation. Alain grandit dans une Normandie encore très catholique. Il compte même parmi ses cousins un chanoine. Quoique la maison des Chartiers ne soit pas très religieuse, Alain reçoit sa première instruction des frères religieux au collège local. Lui-même s'éloigne de toute religion lors de son adolescence. Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'avais dit mes prières, appris le catéchisme, confessé mes péchés, communié en toute bonne foi. Je le sais car j'avais bien peur du diable et de l'enfer. Mais il faut dire aussi que j'étais consciencieux à répondre la messe et à dire le chapelet, au point d'avoir eu là-dessus une réputation non contestée, non moindre que celle de mon camarade Gasselin, pur percheron, et qui l'est resté. À nous deux, nous formions l'équipe première, à qui l'on confiait les dizaines de chapelets à dire pour quelques moribonds de la ville. Ici, nulle supercherie jamais, au contraire, la pure vertu de deux novices. Or, deux ou trois ans plus tard, je ne trouvais plus en moi la moindre trace de cette religion si sincère, sans que je puisse dire comment ce changement s'est fait. Peut-être la peur a-t-elle cessé de régner quand les muscles ont pris force. Je n'oserais pas dire que la religion n'est que peur, toujours est-il que la religion s'en alla de moi en même temps que la peur. Ces quelques lignes, on me pardonnera du reste d'avoir fait quelques coupures dans le paragraphe, proviennent du livre d'Alain publié en 1936, Histoire de mes pensées. Toutes les citations de cet épisode du podcast sont tirées de ce même ouvrage. Revenons à Alain et à sa scolarité chez les frères à Mortagne. Cette première éducation ne donne que des bases. Le niveau est médiocre, pour dire le mieux, mais le jeune Alain reçoit en classe de quatrième une bourse pour étudier au lycée public d'Alençon, où il prépare deux baccalauréats de philosophie et de sciences. On le voit déjà polytechnicien, mais son échec au baccalauréat des sciences a un effet inattendu. Lisons à nouveau Histoire de mes pensées. Ma carrière de polytechnicien fut courte. On demanda et on obtint pour moi un transfert de bourse au lycée de Vanves, depuis lycée Michelet. Je devais réparer en octobre mon échec de juillet et suivre les mathématiques spéciales. J'allais entrer sans enthousiasme dans ce chemin quand un vieil ami de mon père et qui me regardait faire depuis longtemps me dit tout soudain « Ne prépare donc pas polytechnique. Avec bien moins de travail, tu entreras à normal lettres. » Cela me plut. Les gens de Vanves ne discutèrent pas, et c'est ainsi que je fus jeté dans une carrière à laquelle je n'avais jamais pensé. Au lycée Michelet, Alain fait une rencontre essentielle, celle de son professeur de philosophie, Jules Lagneau. « Je connus un penseur, dit-il, je l'admirai, je résolus de l'imiter. » Dès ce temps-là, et depuis, j'ai plaidé pour mon maître. J'ai plaidé pour mon maître. Étudiant, Alain pense que Lagneau devait être nommé à l'école normale supérieure. Bergson est préféré. Alain en tire une rancune tenace pour le philosophe de l'élan vital. Elle s'élargit avec les années lorsque sa propre philosophie du jugement l'oppose au spiritualisme de l'intuition, sa politique au conservatisme bergsonien et à son soutien à la Première Guerre mondiale, son laïcisme à la fascination bergsonienne pour le catholicisme. Plus tard, Alain publie les fragments de Jules Lagneau et consacre à ce dernier l'un de ses livres, « Souvenirs concernant Jules Lagneau », paru en 1925. Passons rapidement sur le reste des études. Alain est reçu à l'École normale supérieure, pépinière de la République. Il y étudie avec Léon Blum, qui quitte bientôt l'école, et avec Élie Halévy, le grand politiste, et avec Léon Brunjvic, qui règne sur la philosophie française universitaire dans l'entre-deux-guerres. C'est cette jeune génération de philosophes qui crée en 1893 la revue de métaphysique et de morale où Alain donne ses premiers textes sous forme de dialogue. Reçu agrégé, Alain prend une décision lourde de conséquences pour l'avenir. Dispensé de service militaire, il se fait la promesse de s'engager en cas de guerre. Il tient cette promesse en 1914, à l'âge de 46 ans. Une fois agrégé, Alain devient professeur de lycée. La première partie de sa carrière professorale l'emmène en Bretagne, à Pontivy puis à Lorient. Il se passionne pour la politique, dans le sillage de l'affaire Dreyfus. Histoire de mes pensées, à nouveau. Je ne fus Dreyfusard que malgré moi, et par l'abondance de naïves sottises qu'on lisait dans les journaux du parti militaire. Autrement, j'apprenais avec calme qu'un officier d'état-major s'était pincé le doigt dans son propre tiroir. Car j'avais travaillé en passant sur l'histoire militaire, je n'avais pas grande opinion de ces hommes violents et prudents. Toutefois, quand il fut évident que les grands chefs s'honoraient presque d'une erreur, et en tirait occasion de nous rappeler qu'il nous gouvernait, je me jetai dans la révolte et je rattrapai mes amis Dreyfusard. Et discourant sur des bancs de square avec l'appui des ouvriers de l'arsenal et des marins, nous fûmes maîtres de la ville, et même nous préparâmes d'assez près une commune autonome pour le cas non invraisemblable d'un coup d'état militaire. Je fus donc livré aux bêtes, je veux dire aux passions. Ces passions amènent le jeune professeur philosophe à participer au mouvement des universités populaires et à écrire pour la presse radicale de l'Orient. En 1900, il est nommé à Rouen et il va se livrer à la politique active en faisant campagne pour le député Ricard en 1902. La défaite électorale l'éloigne définitivement de toute participation active à la politique. Néanmoins, c'est à Rouen qu'Alain continue d'écrire pour la presse, d'abord en donnant des chroniques hebdomadaires. « Cet article hebdomadaire empoisonnait toute ma semaine », écrit Alain dans « Histoire de mes pensées ». « Je cherchais deux ou trois idées, je rédigeais en une forme convenable, tout était plat. Qu'y faire ? C'était encore mieux que rien. » Et à tout prendre, Alain apprend son métier de journaliste et surtout d'écrivain. Mais c'est en 1906 qu'il finit par fixer son style. Chaque jour, il envoie à la Dépêche de Rouen et de Normandie une courte chronique. Deux pages de papier à lettres, c'est la longueur qu'il se donne. Il nomme ses courts textes « propos », »,« propos d'un Normand ». Les propos, c'est le genre le plus connu d'Alain, qui parfois éclipse les livres qu'il publie à partir de 1916. Dans ses propos, Alain touche à tout sujet et se donne pour but de relever l'entrefilet au niveau de la métaphysique, comme il l'a écrit. Ses courts textes quotidiens ne s'interrompent qu'en août 1914, à son départ à la guerre. C'est une œuvre gigantesque qui aborde tous les sujets, morale, éducation, physique, pédagogie, astronomie, mais d'abord la politique, la démocratie, la République qui continue de se bâtir, la République qu'il faut bâtir. On peut lire les propos comme un commentaire extraordinaire de l'actualité de la belle époque finissante. On doit surtout les lire comme une œuvre philosophique et politique fragmentaire, adressée à des contemporains dans un style volontairement approchable, souvent plein d'humour. Le philosophe, par la presse, veut s'adresser à tous ses contemporains. Alain continue d'écrire pour la Dépêche de Rouen, même lorsqu'il se trouve nommé à Paris. Après plusieurs postes, y compris à son ancien lycée Michelet, il finit par se fixer dans la prestigieuse Cagne, comme on dit, c'est-à-dire la classe préparatoire à l'école normale supérieure, au lycée Henri IV, à Paris. À mesure que la tempête de la Grande Guerre s'approche, un thème se met à dominer les propos qu'Alain écrit chaque jour, celui de la guerre. Alain se bat de toutes ses forces pour éviter que la tragédie ne survienne. Il mène un long combat contre la loi qui porte à 3 ans le service militaire. Il pense, avec raison, que c'est encourager les dynamiques militaristes en fournissant à l'état-major des troupes nombreuses qui les rassureraient dans leur marche vers la guerre. Il veut certes une armée forte, efficace, mais il la veut capable non d'agresser, mais de défendre le territoire national. Il doute que le long encasernement de la jeunesse pendant 3 ans va servir à ce but. Hélas, ce combat sincère, citoyen d'Alain, se révèle vain. En août 1914, la folie emporte l'Europe et avec elle les espoirs de paix qu'Alain n'a cessé de défendre contre la droite nationaliste, contre les militaires, contre les revanchards de toutes sortes. On se souvient qu'Alain avait été dispensé de service militaire à cause de son engagement dans l'enseignement et qu'il s'était promis de se porter volontaire si la guerre éclatait. Il tient cette promesse dans l'ambiance fiévreuse de l'été 1914 que restitue Histoire de mes pensées. Me voilà à la guerre. Je veux laisser l'événement et l'anecdote et ne considérer que le drame d'idée que la guerre fut pour tout le monde. En moi, il fut violent et même insupportable. Du moment où les chants de mort firent résonner les maisons, j'aperçus le sang. Je connus ensemble la peur et le courage, et ces premiers jours sont ceux où je perdis mon propre empire. Je n'étais plus qu'horreur, et cela ne pouvait durer. Par bonheur, quand j'eus à choisir, ainsi que ceux de mon âge, entre l'ancienne loi militaire et la nouvelle, et quand je choisis l'engagement universitaire qui me libérait pour toujours, je promis à moi-même qu'en cas de guerre, je reprendrais ma place dans le rang. Il n'y avait pas à hésiter, tout dépendait de la force restante. C'est ainsi qu'à mes 46 ans, et que sur le vu du médecin-major, je me trouvais canonnier dans la Lourdes. Lourdes, 95 mm, qui devint légère, et me promena de Vèvres en Champagne et de Vèvres à Verdun, menant cette dure vie avec le risque quotidien devant la vue. Ce drame d'idée que la guerre fut pour tout le monde. Écoutons encore une fois cette phrase. Saisissons sa signification. Ce n'est pas en intellectuel qu'Alain réagit, c'est en citoyen d'une démocratie égale à tous les autres. En démocratie, nul n'est exempté du devoir de penser. Nul n'est exempté du devoir de guerre non plus, selon, comme dit Alain, la force restante. Autrement, il faut se taire. Voilà. Alain a fait la guerre, quoique pacifiste, quoique dispensé, parce qu'il veut avoir le droit de parler. Bien plus. Il fait la guerre comme simple soldat, refusant tout grade, refusant de devenir officier, refusant même de devenir sous-officier, même si ses aptitudes en font un maréchal des logis, c'est-à-dire un caporal, ce qui n'est pas dans l'armée française un rang de sous-officier, ce n'est pas un rang du tout, un caporal donc aux fonctions étendues. Certes, Alain n'a pas été versé dans l'infanterie. Il ne risque donc pas de se retrouver sacrifié comme tant de ses jeunes élèves que la guerre emporte par dizaines. Cela ne veut pas dire que sa guerre n'est pas dangereuse. Il risque à tout moment sa vie et plusieurs fois se trouve soufflé par des obus qui, par chance, éclatent leurs fragments dans la direction opposée. On meurt moins dans l'artillerie. Cela ne veut pas dire qu'on ne meurt pas souvent. Et Alain est au front pendant 2 ans. Sans permission pendant 15 mois. En mai 1916, il est transféré à Verdun. C'est la route vers la terreur. Mais son pied se prend dans la roue du chariot de transport. Blessé, Alain reste de longs mois à l'hôpital. Pour autant, sa guerre n'est pas finie. Il revient au front, mais boiteux, il comprend qu'il ne sert pas à grand-chose et se trouve transféré comme caporal dans la météorologie de l'armée de l'air, loin du front. Il finit par obtenir sa libération en octobre 1917. Il ne s'est pas engagé pour la vie de caserne, il ne s'est pas engagé pour faire la météo, mais pour faire la guerre. Et la guerre, il ne peut plus la faire. La guerre a été la plus grande tragédie de la vie d'Alain, et elle a tout changé pour lui. Il sent qu'il a une dette pour tous les jeunes morts de la guerre. Il va la payer. Il la paie en écrivant enfin l'œuvre philosophique qu'il avait repoussé jusqu'alors. En effet, de la guerre naissent 3 grands livres, 81 chapitres sur l'esprit et les passions, Système des Beaux-Arts, Mars ou La guerre jugée. Ces 2 derniers ouvrages sont largement remaniés après-guerre, mais l'inspiration vient bien de la boue des tranchées, des conversations et d'une expérience intolérable. On note aussi une édition en braille de petits résumés sur les philosophes destinés aux aveugles de guerre. Ce ne sont certes pas les premiers livres d'Alain. Les propos avaient été recueillis dans des sélections dès l'avant-guerre, et l'un de ses discours, appelé « Les marchands de sommeil », avait été aussi imprimé. Il avait également, au début du siècle, écrit un livre sur Spinoza. Mais les livres qui naissent à la guerre sont d'une nature différente. Ils sont écrits pour être des volumes, et Alain y parle en son nom propre et non pas à travers d'autres philosophes. Cela ne signifie pas pour autant que l'aventure des propos soit terminée. Elle reprend en 1921 dans la revue que ses amis Jeanne et Michel Alexandre créent pour Alain et qui s'intitule justement « Les libres propos, journal d'Alain ». Alain cherche d'abord à revenir à son rythme quotidien d'avant-guerre, puis, progressivement, le rythme ralentit. Nous reviendrons sur la revue des libres propos dans d'autres épisodes. C'est un moment extraordinaire, car Alain veut en faire une revue de jeunes philosophes. On lit donc dans les colonnes de la revue les premiers essais de Canguilhem, de Weil, d'Aron, et d'autres encore à peine moins scellés. Quant à la vie personnelle d'Alain, elle se stabilise aussi dans ces années. Il partage son temps entre son appartement parisien et sa petite maison du Vésinet, et sa vie entre deux femmes, son amie Marie-Monique Maure-Lamblin rencontrée à Rouen et son amante Gabrielle Landormi, la nièce et la fille adoptive d'un de ses meilleurs amis, Paul Landormi. Gabrielle finit par ne plus supporter l'ambiguïté de la situation et part aux États-Unis. Alain est désespéré. Marie-Monique se dévoue à l'œuvre d'Alain qui continue de s'épanouir entre livres, propos et combats politiques, notamment contre le fascisme et le renouveau des menaces de guerre après l'accession de Hitler au pouvoir en Allemagne. En 1933, Alain prend sa retraite et se réfugie au Vésinet avec Marie-Monique. Malheureusement, la maladie abat très vite cet homme si solide, dont le cœur est brisé par le désespoir de voir la guerre poindre à nouveau à l'horizon. Sans être un pacifiste absolu, il ne cesse de plaider pour la paix et se montre favorable aux accords de Munich. La guerre venue et perdue par la France, Alain est de plus en plus malade et il songe même au suicide en 1941, au moment où Marie-Monique meurt. On a beaucoup commenté l'attitude d'Alain pendant la guerre, mais la réalité est qu'il n'y a pas vraiment d'attitude. Alain vit retiré et dans une santé, y compris une santé mentale, précaire. Certes, on peut éprouver un profond désaccord avec certaines opinions couchées dans son journal intime de l'époque, mais ce sont des pensées souvent fugaces, parfois acrimonieuses, injustes par épisode et marquées par la descente aux enfers d'un esprit qui brille encore par moments, mais aussi s'éclipse bien souvent. Alain marche-t-il vers sa fin? Un événement va secouer l'homme de sa torpeur et le sauver d'un déclin annoncé, le retour de Gabrielle, qui s'est à son tour engagé dans les services auxiliaires des forces alliées et a notamment servi durant la campagne d'Italie. Les deux amants se retrouvent. Il a 77 ans, elle en a 20 de moins. Ils se marient. Les 6 ans qu'il reste à vivre à Alain sont marqués de bonheur. Il fallait terminer ce trop bref résumé de la vie d'un grand philosophe par ce mot de bonheur. L'une des citations les plus célèbres d'Alain nous rappelle en effet qu'être heureux est le devoir philosophique par excellence, parce que c'est l'essence même de la vie. En effet, Alain écrit « Comme la fraise a le goût de fraise, la vie a un goût de bonheur ». Ce n'est certes pas un hasard si l'ouvrage le plus connu, le plus traduit d'Alain est son recueil de propos sur le bonheur. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour aborder les grands thèmes de la philosophie d'Alain. En attendant, si vous êtes intéressé par la vie d'Alain, il existe 2 biographies du philosophe. Alain, un sage dans la cité, a été publié par André Cernin chez Robert Laffont en 1985. Il y a aussi le livre que j'ai consacré à Alain, Alain le premier intellectuel, aux éditions Stock, 2006. Par Thierry Leter, donc, même s'il est fort étrange de parler de soi à la troisième personne. On consultera avec avantage le site des associations Alain, riche de textes, de notes, de documents, et qu'on trouve à l'adresse suivante alinalia.free.fr. alinalia.free.fr.
Thank you.